Il est 7h.
C'est une troisième voie que nous retenons, une voie qui doit permettre de freiner sans enfermer.
Le confinement partiel annoncé il y a 3 semaines par Jean Castex commencerait-il à payer ? Les premiers chiffres, en tout cas, sont encourageants. Le détail dès le début de ce journal. Et c'est une perspective aussi très attendue, celle de la réouverture des lieux culturels, théâtre, cinéma, musée. Comment pourrait-elle être organisée ? On a choisi ce matin de regarder à l'étranger, des États-Unis à l'Australie, en passant par l'Allemagne. Quel protocole mis en place ? Tour d'horizon à suivre. Dans ce journal aussi, des demandes d'admission en baisse dans les EHPAD, trop de restrictions et la crainte de contamination pour les familles. Et puis la bataille des iguanes en Martinique quand une espèce importée menace son cousin local. Juste après ce journal, l'éclairage éco de Nicolas Barré suivi du regard international de Vincent Hervouet.
Oui, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Les négociations sont relancées à Vienne sur le nucléaire iranien et les Américains sont prêts à tout pour faire oublier Donald Trump.
L'édito sport de Virginie Fulpin et puis nous serons avec Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu. Une fois n'est pas coutume, on parlera aujourd'hui de potins. Non, je vous donnerai pas les dernières nouvelles de la couronne d'Angleterre, mais on se posera la question de l'origine de ce mot de potin.
Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h avec Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Comme un encouragement ce matin, une bonne raison de s'astreindre malgré la lassitude au respect des nouvelles restrictions mises en place le week-end dernier. Dans les premiers départements où les fermetures de commerces non essentiels et les limitations de déplacement ont été mises en œuvre à la mi-mars, les chiffres commencent à baisser, Victor Dolande.
Oui, depuis quelques jours, les courbes sont nettes, les indicateurs baissent. Prenez le Nord-Pas-de-Calais, le nombre de nouveaux cas y a baissé de plus de 10% en une semaine. Dans tous les départements d'Île-de-France, on observe aussi une diminution, plus légère certes, mais bien réelle, du taux d'incidence et des entrées en réanimation. Autant de signaux encourageants pour Mircea Sofonea, maître de conférence en épidémiologie à l'Université de Montpellier.
Quand je compare le haut niveau national, on est plus élevé que sur les 19 départements. Donc ça veut dire qu'on a quelque chose qui descend au niveau de la circulation, qui est de moins en moins active. Mais pour le moment, elle n'est pas de nature à vider les services hospitaliers.
Ce qui veut dire qu'au niveau national, le nombre de patients en réanimation va encore augmenter pendant un certain temps. Mais ces effets mesurés dans les 19 départements où des restrictions avaient été mises en place plus précocement peuvent laisser penser qu'on observera les mêmes tendances dans le reste du pays dans les prochaines semaines.
L'espoir entretenu hier aussi par Emmanuel Macron à l'occasion d'une intervention dans un cours à distance avec des élèves de 3e, assouplissement pour l'été et réouverture des commerces, a-t-il réaffirmé à partir de la mi-mai.
C'est le mois prochain aussi que les salles de spectacle pourraient commencer à rouvrir avec un protocole qui reste encore à définir.
Quel jour dans les salles, quel rythme de représentation pour trancher, peut-être le monde culturel regardera-t-il à l'étranger car au-delà de nos frontières, certains lieux de culture ont déjà rouvert.
Et on a fait le choix ce matin de regarder ce qui se passe à travers le monde avec vous, Angèle Châtelier, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors pour le théâtre par exemple, où peut-on aller voir une pièce aujourd'hui ?
Eh bien à New York depuis une semaine, mais dans des conditions très strictes, 150 personnes maximum dans la salle, avec masque obligatoire évidemment, et un test PCR négatif à présenter. L'objectif, que les lumières de Broadway se rallument complètement à l'automne. Et puis, d'autres ont eu la chance d'entendre ça. La Traviata, qui a été jouée en décembre à Barcelone, l'appareil qu'à New York, jauge réduite, masque, et tout est fait pour que les spectateurs le gardent pendant l'entracte. Les bars sont fermés dans les salles et les rideaux restent levés entre deux actes pour que les spectateurs contemplent le changement de décor et restent à leur place.
Et pour le cinéma ?
Et pour les cinémas, eh bien, on reste en Espagne, puisque pour l'Europe, c'est l'un des seuls pays où les salles sont ouvertes. Le masque est obligatoire là aussi. Interdiction de manger des pop-corn, mais faute de films, 42% des cinémas ont porte-close dans le pays. Malgré tout, c'est un modèle dont s'inspirent les professionnels en France pour ouvrir au plus vite.
Et parmi ces lieux culturels, il y en a un prioritaire, Angèle, dans l'Hexagone, ce sont les musées.
Oui, c'est l'un des lieux les plus faciles à contrôler. D'ailleurs, en Allemagne, quelques-uns ont pu rouvrir dans des conditions sanitaires très strictes. Là aussi, notre correspondante Hélène Kohl a pu le constater à Berlin.
Sans test négatif et un ticket acheté à l'avance, on ne met pas un pied à la National Gallery. Un vigile contrôle chaque visiteur. Aller au musée est une démarche en soi, reconnaît Katerina derrière son masque FFP2.
On avait tout prévu. On s'est fait tester à 10h ce matin et puis on avait réservé le musée à midi. C'est super. C'est en tout cas bien mieux que quand tout était fermé.
30 000 billets ont été vendus en 2 semaines. Raphaël Gross, le directeur du musée d'histoire allemande.
La joie des gens,
Leur impatience à aller voir de l'art, de la culture dans les musées, tout ça nous a surpris.
Steffi et sa collègue pensaient aller admirer quelques toiles de maître pendant leur pause déjeuner.
On avait justement un test négatif du jour, mais il n'y a plus de créneau pour visiter le musée aujourd'hui et demain.
Et elles s'attendent à ce que tout referme à nouveau, car l'épidémie repart à Berlin et au-delà de 100 cas pour 100 000 habitants, ce projet pilote dans quelques musées de la capitale devra être arrêté.
Voilà pour les musées, mais d'autres comme vous, j'imagine, Mathieu, attendent la réouverture des salles de concert. Alors, cette ambiance-là, l'Australie la connaît déjà, mais là-bas, le contexte est très différent. Le pays a opté pour la stratégie du zéro Covid. Il n'y a plus que 10 cas de contamination par semaine. Alors, il y a un mois, le groupe Tame Impala a pu jouer devant 2000 personnes, debout, collées les unes contre les autres et sans masque.
Ils sonnent pas bien les instruments, c'est brouillon, mais c'est ça, c'est du live. C'est ce qui manque aussi un petit peu, franchement, plutôt que la musique toute propre qu'on écoute à la maison. Tiens, en parlant de concert, on a appris également le report de la tournée d'Indochine. Et c'est pas n'importe quelle tournée, c'était les 40 ans du groupe. Ils devaient fêter ça cette année, report à 2022.
2022, premier concert au Stade de France le 21 mai pour le retour de la musique et des concerts. Il faudra donc attendre encore un peu. Ce retour-là ne s'est pas très bien passé, celui des élèves et des profs en ligne pour la reprise des cours à distance. 500 000 connexions hier matin sur un total de 12 millions d'élèves, des bugs, des plateformes saturées et un ministre qui a dû se justifier, hein, Martin Lange.
Oui, Jean-Michel Blanquer qui a donné deux explications à ce départ raté. Hein. D'abord concernant les espaces numériques de travail, les ENT, c'est ces interfaces qui permettent aux professeurs et aux élèves d'échanger. Le ministre a expliqué que beaucoup étaient hébergés par le serveur OVH. C'est ce serveur victime d'un incendie le mois dernier à Strasbourg. Sauf que le patron d'OVH a démenti sur Twitter. Nous ne sommes pas responsables des dysfonctionnements. Deuxième explication donnée par le ministère. Des cyberattaques venues de l'étranger auraient visé la plateforme Ma Classe à la Maison, une plateforme gérée par le Centre National d'Enseignement à Distance, le CNED, qui a d'ailleurs porté plainte hier. Mais là encore, les arguments du ministre n'ont pas convaincu avec des profs en colère. Il semble que Jean-Michel Blanquer est encore manqué, écrit le SNUIPP. Oui, le gouvernement a eu 13 mois pour se préparer. Non, il n'a pas fait grand-chose. Ça, c'est pour les stylos rouges. Les stylos rouges, pardon. Du côté des élèves, on s'amuse beaucoup de ces cyberattaques. Hein. Comme cet élève, très étonné qu'un hacker russe ait voulu, je cite, « choper les plans de son cours sur le participe passé ». Autre exemple avec cet internaute qui imagine Vladimir Poutine très fier d'avoir empêché le cours des 4e B. Une communication hasardeuse qui alimente la défiance envers le ministre. Hier, le mot-clé « Blanquerment » était un des plus utilisés sur Twitter.
Et le ministère de l'Éducation nationale espère en tout cas que les problèmes seront réglés ce matin.
C'est une conséquence de la crise sanitaire. Entre des décès nombreux, des contaminations importantes et des restrictions de visite, les proches des personnes âgées se détournent des EHPAD. Illustration ce matin à Saint-Just-en-Chevalet, c'est dans la Loire, avec Jean-Luc Boujon pour Europe 1.
L'EHPAD du pays d'Urfé, une maison de retraite moderne non loin de Roanne. Pourtant ici, l'établissement est occupé à seulement 60%, 36 lits vacants sur 91. Une situation inédite due aux 20 décès provoqués par le Covid ici au mois de février. Et comme il y a encore eu des cas positifs récemment, les admissions sont bloquées. C'est le règlement du ministère de la Santé, explique Christophe Capron, le directeur.
Il faut savoir qu'on a quand même près d'un mois de latence entre le dernier cas de Covid et la possibilité de pouvoir de nouveau procéder à des admissions.
Le dernier cas date de
le 16 mars.
Ça fait 3 semaines.
Oui, c'est ça. Donc effectivement, il faut attendre une semaine à 15 jours.
Mais de toute façon, il y a très peu de demandes d'admission en ce moment, ici comme ailleurs. On ne se bouscule pas pour entrer en EHPAD, ce que confirme Agnès Pretki, qui chapeaute les 5 établissements gérés par la ville de Saint-Étienne, où le taux de remplissage est inférieur à 90%.
Vu la période, les familles hésitent à placer leurs parents, puisqu'on a quand même des visites qui sont restreintes en résidence. On a eu même des périodes où on interdisait les visites des familles. Ça peut être compliqué.
Il y a la peur du virus aussi, non?
Peut-être un peu pour certaines personnes. Hein. On est tous un peu suspicieux.
Voilà, les listes d'attente pour entrer en EHPAD, c'est donc clairement aujourd'hui de l'histoire ancienne. Saint-Étienne, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Après le déploiement de grands centres de vaccination hier, le début de la production de vaccins aujourd'hui en France, l'objectif des 10 millions d'injections devrait être atteint dès cette semaine, avec un peu d'avance.
7h10 sur Europe 1. 150 personnes évacuées à l'est de Marseille. Un important incendie attisé par le Mistral qui a détruit hier une centaine d'hectares.
Moustiques, tigres, frelons asiatiques ou ambroisies, autant d'espèces invasives désormais bien installées en France. Des envahisseurs dont le développement aurait coûté très cher ces dernières années.
1300 milliards de dollars depuis 1970. C'est une estimation de chercheurs français dans une étude parue dans la revue Nature. Destruction de récoltes et atteinte à la biodiversité locale. Illustration en Martinique où l'iguane des Petites Antilles peine à résister face à l'iguane commun. Reportage sur place de Fanny Marceau pour Europe 1.
Pour empêcher les iguanes d'entrer chez elle, Dina a dressé un grillage autour de sa maison, mais c'est loin de suffire.
Mon chien Rex, dès qu'on entend un bruit, il bondit, on sait tout de suite qu'il y a l'iguane qui est soit dans l'arbre, soit sous la véranda. Une fois, il y en a un très gros qui est entré dans la cuisine. On a dû appeler les pompiers.
L'animal impressionne, jusqu'à 1,50 m de long et entre 1 et 4 kg. Importé d'Amérique du Sud dans les années 60, il a proliféré dans tout le centre de l'île et remplacé, au fil des accouplements, l'iguane endémique de la Martinique, plus petit et plus fragile. L'un de ses derniers habitats naturels, c'est une petite île de 70 mètres carrés où il est marqué et surveillé de près.
Tu l'as ?
Kevin Urvois est chargé de mission à l'ONF.
On a trois sites de ponte qui sont suivis avec des capteurs vidéo. Et on a également mis des pièges pour les rats aussi autour, histoire d'éviter en fait la prédation des œufs par les rats.
Et ce n'est pas la seule menace, Emine Joé-Long, animatrice territoriale à l'ONF.
Il y a également des moutons qui appartiennent aux propriétaires de l'îlet et qui mangent toutes les petites plantules. Et donc il n'y a pas de régénération de la végétation, alimentation de l'iguane.
Conséquence, il ne reste qu'environ 500 iguanes des Petites Antilles sur cet îlet. Il y a 10 ans, ils étaient entre 8 et 900 à Fort-de-France. Fanny Marceau, Europe 1.
Et puis après la défaite en finale de la Ligue des Champions l'an dernier, le PSG retrouve ce soir le Bayern Munich, quart de finale aller de la compétition européenne. Match à suivre en direct sur Europe 1.
Et le milieu de terrain, Ander Herrera, sera mon invité à 7h40 dans le tête-à-tête Europe Matin. Merci Marion Calais, c'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Notez aussi ce rendez-vous. On parle cette semaine des débats autour de la fin de vie, débat à l'Assemblée demain, malgré l'embarras du gouvernement. Un témoignage à 8h15, un homme qui a accompagné sa femme vers la Suisse pour qu'elle puisse mourir comme elle l'entendait. Il s'appelle Michel Philippin et vous l'entendrez, vous l'écouterez au micro de Sonia Mabrouk. Tout de suite, l'éclairage éco de Nicolas Barré.
Et les États-Unis pour un impôt mondial sur les sociétés, c'est une révolution.
Bon réveil à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h15 sur Europe 1, l'heure de l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Une révolution, une avancée historique. C'est ainsi qu'a été très largement qualifiée hier la proposition américaine d'un impôt minimum mondial sur les sociétés.
Oui, c'est vrai que cette proposition change le paysage. Ça fait des années qu'il y a des discussions au sein de l'OCDE, le club des pays développés, pour mettre fin au dumping fiscal, pour arrêter cette course entre les pays qui baissent l'impôt sur les sociétés afin d'attirer ces dernières chez eux. Une course qui prive les grands pays de recettes fiscales et qui permet aux multinationales, et notamment aux GAFA, de pratiquer l'optimisation fiscale en faisant en sorte que leurs profits soient déclarés dans les pays où l'impôt sur les sociétés est le plus faible.
Un petit jeu qui serait donc torpillé avec l'instauration d'un taux d'imposition minimum à l'échelle mondiale ?
Ben c'est l'idée, en effet. La secrétaire au Trésor de Joe Biden, Janet Yellen, a clairement dit qu'elle voulait, je cite, « mettre fin à cette course vers le bas ». C'est un changement complet de la part des États-Unis qui a été salué un peu partout, à Paris, à Berlin, par la Commission de Bruxelles, par le FMI, même par Jeff Bezos, le patron d'Amazon, c'est dire. Alors, le feu vert de Washington signifie qu'on pourrait avoir un accord au sein du G20 début juillet, accord qui s'étendrait aux 140 pays qui travaillent sur le sujet au niveau de l'OCDE. Voilà pourquoi cette avancée serait historique. Pour la première fois, nous aurions donc un impôt minimum mondial sur les sociétés, alors qu'aujourd'hui, la concurrence est faussée entre ceux qui pratiquent l'optimisation fiscale à grande échelle et puis les autres.
Et pourquoi un tel changement de pied des États-Unis ?
Alors d'abord, il ne faut pas être dupe, l'État fédéral américain a des besoins financiers énormes pour financer ses plans de relance. Et pour cela, l'administration Biden veut augmenter l'impôt sur les sociétés. Les États-Unis ont donc un intérêt pressant à mettre fin à cette concurrence fiscale puisque les impôts vont augmenter chez eux. Mais au-delà de ça, il y a quand même une vraie conviction de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, pour mettre plus d'équité dans le système. L'autre grande avancée concerne l'imposition des multinationales dans les pays où elles réalisent des bénéfices. Ça vise à empêcher en fait les GAFA de jongler d'un pays à l'autre. Un accord global sur la fiscalité internationale permettrait d'enterrer la taxe GAFA et les sanctions américaines qui nous frappent en retour. C'est donc une excellente nouvelle qui se dessine et qui, il y a quelques mois encore, sous Donald Trump, était absolument inimaginable.
Merci Nicolas Barré, l'éclairage éco tous les matins sur Europe 1. 7h18, le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Hier, les discussions sur le nucléaire iranien ont été relancées à Vienne. Le climat est au beau fixe ?
Oui, les Américains et les Iraniens sont d'accord sur un point. Les discussions sont constructives. Alors, n'allez pas en déduire qu'ils discutent ensemble, ce serait trop simple. Les Iraniens ont popularisé le jeu d'échecs. Ils ne jouent pas au poker. Ils sont dans un palace flanqué de leurs alliés russes et chinois, avec les Européens qui servent de facilitateurs, c'est-à-dire les Français en pointe, les Allemands qui démarquent à la culotte, les Britanniques qui restent à bord, et puis il y a un représentant de Bruxelles pour présider. Et puis, dans un hôtel à côté, il y a la délégation américaine, car les Iraniens refusent tout contact avec les représentants du grand Satan. Alors les Européens sont contents, ils sont utiles, ils courent d'une suite à l'autre. On peut y voir une version 5 étoiles du téléphone arabe ou un sas de décontamination, ce qui est bienvenu en période de pandémie. Pour les Américains, l'affaire est ultra prioritaire. Joe Biden veut refermer la parenthèse Trump. Robert Malley, son missile Dominici, s'active depuis 3 mois à déminer et il est arrivé à Vienne.
Il a déjà donné des gages.
Oui, quand Donald Trump a dit que l'accord était horrible et qu'il en a fait des confettis, les Iraniens ont relancé leur centrifugeuse à fond devant les caméras de la IEA. À la face du monde, ils enrichissent l'uranium à 20%, ce qui leur est interdit. Les Américains voudraient ressusciter l'accord de Vienne en cette semaine de Pâques. Ils sont prêts à faire le premier pas, à lever les sanctions qui sont en contradiction avec l'accord de 2015. Les Iraniens applaudissent, mais ils réclament maintenant la fin de toutes les sanctions en même temps.
Alors on comprend que ça va pas être simple.
Oui, à côté, remettre le dentifrice dans le tube est un jeu d'enfant. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, mais il va falloir parler de l'Irak, de la Syrie, du Liban, du Yémen, où l'Iran a renforcé ses positions depuis 2015, parler de ses capacités balistiques qui mettent Los Angeles à portée de ses fusées, des batteries de S-400 qui rendent son territoire inviolable grâce aux Russes, de la Chine qui est leur allié. Mais il faut être constructif et ne parlons surtout pas donc de l'élection présidentielle en Iran en juin et du remplacement du guide suprême qui condamne les négociateurs viennois à faire durer éternellement le plaisir.
Merci Vincent Hervouet, le regard international tous les matins sur Europe 1. 7h20 tout de suite, l'édito sport de Virginie Fulpin.
Neymar a des choses à se faire pardonner avec le Paris Saint-Germain, c'est maintenant ou jamais.
Ce sera juste avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bernat tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h23 sur Europe 1. L'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le Paris Saint-Germain se déplace chez le Bayern Munich ce soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Les Parisiens ne partent pas forcément favoris face au tenant du titre, il faut le rappeler. Pour vous, c'est maintenant que Neymar doit prouver qu'il est l'un des meilleurs joueurs au monde. Sinon, autant qu'il s'en aille.
Ben Neymar, c'est comme un enfant à haut potentiel. Vous savez, ce qualificatif qui rend les parents très fiers, mais qui peut très vite exaspérer l'entourage.
Je n'ai pas vu venir avec le haut potentiel insupportable.
Ben ouais. Exactement. Et pour l'instant, le problème, c'est que le Brésilien montre surtout son côté insupportable. Il réussit à allier suffisance dans l'attitude et insuffisance dans le jeu. Déjà, ce soir, il est présent, ce qui n'est pas souvent le cas. Neymar a joué 13 matchs de Ligue 1 cette saison et 5 en Ligue des Champions, avec un scénario qui se répète inlassablement. Il est blessé pendant plusieurs semaines, il revient, il manque de rythme, donc il joue mal. Ça entraîne de la frustration, il se laisse aller à des gestes idiots de cour de maternelle contre ses adversaires. Il prend un carton rouge et il est suspendu. Et le pire, c'est que personne ne lui dit rien au club. Vous comprenez, il est quand même à haut potentiel, il ne faudrait pas le froisser. Ça suffit, maintenant il agace ses partenaires, un certain nombre de supporters aussi, et son attitude déplorable salit l'image du PSG. Les Parisiens ne sont pas toujours convaincants cette saison, en gros ils n'ont eu que 2 moments de véritable grâce, à Barcelone en Ligue des Champions et à Lyon en championnat, 2 matchs que Neymar n'a pas joué. Donc maintenant, il va falloir prouver qu'un joueur à haut potentiel, ça ne veut pas juste dire insupportable, mais aussi indispensable. Et il y a du boulot.
Oui, mais on sait que la magie Neymar peut opérer à tout moment.
Bah, bien sûr, c'est peut-être ce qui est le plus agaçant chez ce joueur. Quand il arrête de se comporter en petite frappe individualiste, quand il redevient un joueur de foot, il est exceptionnel. Bien sûr qu'il a un talent hors norme. Dans un grand soir, il peut éclairer le jeu à lui tout seul ou presque et faire un récital. C'est ça qu'on attend de Neymar ce soir. C'est pour ça qu'il a été recruté par le PSG, pas pour jouer les divas de bac à sable. Kylian Mbappé, lui, a subi beaucoup de critiques. Mais quand il a fallu être là à Barcelone, il a claqué un triplé. Il sait répondre aux attentes au moment où il le faut. On est en droit d'attendre la même chose de Neymar. Le Brésilien a toutes les cartes en main. À lui de jouer maintenant. Sinon, je ne vois pas très bien en quoi sa probable prolongation de contrat au PSG serait une excellente nouvelle.
Eh bien, j'étais encore sur le bilan, 13 matchs en Ligue 1 et 5 en Ligue des Champions cette année. Ça fait pas beaucoup de matchs pour
Oui, mais il y a peu de saisons où il y a beaucoup de matchs de Neymar.
On est le 7 avril. Après, on a besoin de lui sur un match ce soir. Enfin, on, les Parisiens.
Oui, mais c'est ça. C'est maintenant ce soir. Ou jamais.
Vous savez quoi, on va en parler avec Ander Herrera, qui est mon invité à 7h40, milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Et ne manquez pas ce soir, la soirée spéciale, dès 20h. Dès 20h sur Europe 1, PSG Bayern Munich, un quart de finale aller de Ligue des Champions. Allez, c'est pas tous les jours, on en profite. 7h26 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. C'est l'heure de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour Virginie, bonjour à tous. Pourquoi, quand on se passionne pour les cancans, pour les derniers scoops des stars ou les rumeurs sur les sportifs, n'est-ce pas Virginie, on dit qu'on aime les potins? D'où vient ce mot de potin?
Alors on dit aussi faire du potin quand on colporte les derniers potins. Ça vaut pour les personnalités connues, mais aussi pour ses collègues. Généralement, on les partage à la machine à café.
D'ailleurs, vous n'êtes pas le dernier pour les raconter, Mathieu. Vos derniers potins sur Marion Calais et Virginie Fulpin m'ont laissé sans voix. Enfin, je n'y reviendrai pas. Partons pour la Normandie du XVIIe siècle, l'hiver. Il fait froid et vous l'imaginez bien, il n'y a pas grand-chose à la télé, surtout que la télé n'existe pas encore. Résultat, les femmes des villages se rassemblent chez l'une ou l'autre pour se raconter les derniers commérages. Elles apportent des petits pots en terre cuite contenant des braises. Ces dames se mettent en cercle, disposent les pots à leurs pieds, il fait meilleur et on se raconte les nouvelles. Ces petits pots étaient appelés les potines. Une expression va naître également à cette période, potiner, une formule que l'on n'utilise plus du tout de nos jours, sauf chez moi.
En 1870,
oui, c'est bien,
c'est mignon.
En 1878, dans le dictionnaire du jargon parisien de Lucien Rigaud, entre enfin le mot potin. La définition, bavardage ou un peu de vérité mêlée à beaucoup de mensonges. Et terminons sur cette citation d'Alfred Capus, journaliste au Figaro au début du XXe siècle. Méprisez la calomnie, prenez garde au potin. Pardonnez une insulte, mais jamais une impolitesse.
À 16h, tout à l'heure, c'est historiquement vôtre.
Oui, on réunit Georges Clémenceau et Marguerite Baldensperger, Virginia Woolf et Vita Sackville-West, et Madonna et le rappeur Tupac. Leur point commun, un amour suivi à la lettre. Ils se sont écrits un peu, beaucoup, à la folie.
À tout à l'heure, 16h. Il est 7h28 et nous sommes avec Laurent Cabrol, c'est l'heure de la météo.
Couvrez-vous, hein, parce que... vous allez vous geler le popotin. Bon alors, nous allons donc revenir à nos températures. Ces températures qui sont froides, bien sûr, ce matin, comme elles le furent ces jours derniers. Et, enfin, ces deux jours derniers. Voici maintenant du moins 5 à 3, Châlons-en-Champagne. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes villes qui ont froid cette année, ou ce matin. Langres, Saint-Quentin, Rouen, Melun, Bayonne, moins 3, moins 2 à Besançon, moins 1 à Lille, en banlieue parisienne. 1 degré à Paris, Rennes, 2 à Bordeaux et Lyon, 4 à Brest et Toulouse, 6 à Marseille. Je les répète à chaque bulletin pratiquement parce que c'est important pour vous si vous sortez, si vous n'êtes pas confiné. 8 à 14 degrés, ce sont les températures maximales. Donc il y a vraiment un bond dans l'après-midi grâce à l'ensoleillement. Le temps sera justement très ensoleillé aujourd'hui avec quelques petites exceptions dans l'Est, dans les Alpes notamment, où il a neigé ce matin, je vous dirai où. Les frontières du Nord et du Nord-Est, nous allons vers un temps ensoleillé avec du vent, malheureusement 50 km/h qui va accentuer le froid. Et puis quelques averses cet après-midi sur les côtes nord de la Bretagne. Vous voyez que ce ne sont que des petites nuances que j'installe sur une carte météo froide, hivernale, mais ensoleillée.
Merci beaucoup. Froid, hivernal et ensoleillé. C'est le résumé. Merci Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Hachène.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal. Il est presque 7h30.
Je suis vraiment contente. J'étais un peu angoissée avant de venir. Là, ça va impeccable. Franchement, j'aurais pas cru que ça soit organisé comme ça.
Et début d'opération réussi à l'hôpital militaire de Marseille. Désormais, tout le monde peut s'y faire vacciner. Objectif, 1000 doses par jour, 7 jours sur 7. Dans ce journal, des débats houleux en prévision dès demain à l'Assemblée nationale avec l'examen du projet de loi euthanasie. Jérôme Rodriguez, figure des Gilets jaunes, relaxé après avoir comparé la police à une bande de nazis. Et puis avec le Covid, le golf attire de plus en plus. Plus de 6000 nouveaux adhérents en un an. Reportage sur le Green à la fin de ce journal.
Juste après ce journal, justement, le tête-à-tête Europe Matin, un autre sport, un joueur du Paris Saint-Germain, Ander Herrera, à quelques heures de l'affiche PSG Bayern Munich, c'est un quart de finale de Ligue des Champions. L'édito politique, Nicolas Bétou.
Eh bien, je vais vous parler de saccage Paris, ce mot-clé sur Twitter qui commence à inquiéter Anne Hidalgo.
Nicolas Canteloup ensuite qui conseille à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15. Ce matin, ne manquez pas sur Europe 1, Michel Philippin qui a accompagné sa femme Mireille dans sa fin de vie choisie en Suisse. Ce sera à 8h15. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1.
Écoutez le monde changer.
Mais tout d'abord, ces révélations dans le journal La Croix ce matin, peut-être un nouveau scandale qui pourrait secouer l'Église de France. Le Vatican a lancé une enquête canonique sur les accusations portées contre l'ancien évêque de Cayenne. Bonjour Lanaïc Meunier.
Bonjour.
Deux enquêtes judiciaires ont également été ouvertes par le procureur de Cayenne contre Monseigneur Lafont, à propos notamment de la nature de ses relations avec un jeune sans-papiers.
Oui, un jeune haïtien de 27 ans qui était hébergé à l'évêché depuis plusieurs mois. Et la question est de savoir si Monsieur Lafont lui a demandé des faveurs en échange de son aide pour se faire régulariser. Point de départ de l'affaire, octobre dernier, l'évêque de Cayenne, en poste depuis 2004, porte plainte pour vol avec violence. Il dit avoir été agressé par ce jeune homme. Le suspect est placé en garde à vue et interpellé, mais la surprise, il présente une toute autre version des faits. Parle de relations intimes avec l'évêque, de cadeaux, smartphones, baskets qu'il aurait reçus de sa part, et même la promesse d'un logement et de papiers en règle s'il acceptait de coucher avec lui. Contacté par le quotidien La Croix, Monseigneur Lafont a formellement démenti. Mais en Guyane, l'affaire a fait grand bruit, d'autant que plusieurs voix s'étaient déjà élevées par le passé pour dénoncer le comportement de l'ancien curé de Soweto, notamment des détournements de fonds supposés. Aujourd'hui, Monseigneur Lafont n'est plus en poste. Il est en retraite dans un village près de la forêt amazonienne. Il a démissionné le jour de ses 75 ans en octobre dernier. Démission, et c'est très rare, prestement accepté par le Vatican.
Merci beaucoup Lénaïque Moinet.
La campagne de vaccination accélère en France avec l'ouverture d'un vaccinodrome géant au Stade de France, mais aussi grâce aux hôpitaux militaires qui peuvent désormais injecter des doses.
Et votre vie, notre combat, c'est la devise du service de santé des armées, et cette opération lui fait honneur. Depuis hier, cet établissement militaire propose de vacciner les Français avec un objectif à terme d'administrer jusqu'à 50 000 doses par semaine. Parmi ces établissements, l'hôpital Laveran de Marseille, Stéphane Frangy.
Alors. Des blouses blanches et des treillis dans l'ancienne cafétéria transformée en vaccinodrome, un itinéraire fléché et six tentes blanches sous lesquelles les infirmiers comme le major Fabrice multiplient les injections.
Simple, efficace, militaire. Oui, il y a du rythme, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Hein. Tout le monde a la volonté de bien faire, donc on va être très bon.
Et effectivement, ça ne traîne pas, les personnes vaccinées passent ensuite pour un quart d'heure minimum d'observation dans l'auditorium voisin.
Je suis vraiment contente, j'étais un peu angoissée avant de venir. Là, ça va impeccable. Franchement, j'aurais pas cru que ça soit organisé comme ça.
Tout au fond, tout au fond.
300 personnes vaccinées pour ce premier jour de rodage, mais le commissaire en chef et logisticien Charles Avoine compte sur l'expérience militaire pour augmenter la cadence.
Une montée en puissance de 300, 500 et un objectif définitif à 1000 vaccinations jour sur l'hôpital. Nous sommes organisés effectivement pour ça. Nous avons essayé de répondre à cet objectif très rapidement.
30 militaires sont ainsi mobilisés pour une durée indéterminée dans ce vaccinodrome. Marseille, Stéphane Frangy, Europe.
Écoute, elle est d'accélération outre-Atlantique aussi aux États-Unis. Joe Biden annonce que tous les adultes américains pourront recevoir une dose à partir du 19 avril, soit une dizaine de jours avant l'objectif fixé. Ce constat inquiétant, selon une étude publiée dans la revue médicale The Lancet sur le bilan mental d'anciens malades du Covid, un tiers de ces personnes a développé des problèmes neurologiques ou psychiatriques avec l'anxiété et les troubles de l'humeur parmi les diagnostics les plus fréquents.
C'est un débat sous haute tension, très haute tension, qui s'annonce demain dans l'hémicycle. Les députés se penchent donc demain sur la proposition de loi euthanasie.
Et le sujet divise tous les groupes parlementaires et suscite l'embarras du gouvernement. Et pour éviter un vote dans la journée, pas moins de 3000 amendements ont été déposés. Virginie Salmen.
Un débat sur l'euthanasie en pleine pandémie, Olivier Falorni n'y voit pas un mauvais timing. Pour les députés Libertés et Territoires qui portent ce texte, les Français sont prêts.
C'est une grande loi de liberté, celle de l'ultime liberté qui est encore refusée aux Français. Cette loi permet une assistance médicalisée active à mourir dans des conditions strictes.
Dans une démocratie, on ne donne pas la mort, répondent les opposants à ce texte. Jean Leonetti en tête, l'auteur des deux dernières lois sur la fin de vie. Parmi les points de blocage, les délais très courts pour demander à mourir, souligne le docteur Claire Fourcade, présidente de la Société française de soins palliatifs.
Cette proposition de loi, elle vient nous dire que pour un patient qui fait une demande d'euthanasie, on a 4 jours pour organiser, rencontrer des médecins, faire des propositions, revenir vers le patient, lui faire confirmer sa demande, et ensuite qu'on a 24 heures pour mettre en œuvre cette euthanasie. Et je trouve que ces délais très contraints, qui sont complètement différents dans tous les autres pays qui ont déjà légalisé, où les délais sont beaucoup beaucoup plus longs, jusqu'à 90 jours au Canada, donc c'est vraiment rien à voir, elle ignore complètement ce qu'est la réalité de l'accompagnement.
Autre point de crispation à prévoir dans l'hémicycle, l'article 3 qui prévoit qu'un patient qui ne peut plus s'exprimer pourrait être euthanasié s'il l'a clairement demandé par écrit ou à un proche de confiance.
7h35 sur Europe 1. Une nouvelle vidéo choc diffusée hier soir par L214.
Oui, dans un élevage industriel de poulets du Pas-de-Calais, cette fois où l'on peut apercevoir des volailles entassées, en mauvais état, mortes parfois. L'association de défense des animaux souhaite faire barrage à un projet d'extension de cet élevage.
Il avait qualifié des policiers de nazis sur Twitter. Jérôme Rodriguez, l'une des figures des Gilets jaunes, a finalement été relaxé.
Selon le tribunal judiciaire de Paris, ces mots ne visaient pas l'ensemble de la profession, mais les méthodes de certains d'entre eux, et en particulier le syndicat de police Synergie Officier, avec lequel il est souvent en conflit sur Internet. Aujourd'hui, Jérôme Rodriguez dit regretter ses propos.
Ça fait 2 ans que je me fais insulter. Donc oui, sur un excès de colère, j'ai eu des paroles qui ont très certainement dépassé mes pensées. Mais je le répète, non à l'intention de toute la police, mais seulement à l'intention de ceux qui passent leur temps à m'insulter. Derrière ce compte Twitter, sur les différentes manifestations, quand on les voit par exemple se masquer un œil à la vue des Gilets jaunes et se moquer royalement de ceux qu'ils ont pu... éborgné, ou c'est bien la preuve qu'il ne représente nullement l'entièreté de la police nationale. Donc je peux que me satisfaire de cette décision. Donc voilà, Rodriguez 1, Darmanin 0. Les victoires en justice, il y en aura d'autres. Ça prouvera à ce gouvernement qu'il n'est pas maître du monde et qu'il ne fera pas ce qu'il veut en France. Pour toujours faire passer un peu plus les gilets jaunes pour des animaux qui n'ont aucune valeur, qui sont là pour nuire à la France, chose que je dément et que je passe mon temps à démentir depuis 2 ans.
Jérôme Rodriguez qui répondait à Laura Taouchanoff. Sachez aussi qu'on a joint le syndicat Synergie Officier, le syndicat de police, qui n'a pas souhaité s'exprimer.
La prison à perpétuité requise contre Reda Cricket, jugé pour un projet d'attentat déjoué peu avant l'Euro de football 2016 en France. Le verdict est attendu en fin de semaine.
Et puis un impact étonnant de la crise sanitaire. Le golf est en plein essor depuis un an.
Oui, plus de 6000 nouveaux licenciés en un an en conséquence des confinements et des restrictions sanitaires qui privent nombre d'entre nous de leur activité habituelle. Mais le golf fait partie des rares activités sportives autorisées en plein air et sans proximité avec d'autres joueurs. Stéphane Place.
Beaucoup de jeunes, et ça c'est très récent. Il n'y avait pas ça avant le Covid. Beaucoup de gens se réfugient au golf.
Enseignant au golf de Bordeaux-Lac, Hubert enchaîne les cours avec ses nouveaux pratiquants venus apprendre les rudiments du swing.
Ça fait longtemps que j'y pense, et là j'ai un peu plus de temps en travaillant à la maison. Moi je fais partie des enfants du pays qui travaillent à Paris et qui sont rentrés grâce au confinement. Bah, ça me permet de pouvoir me mettre au golf.
Ça fait à peine 15 jours, la gestion du temps libre, la possibilité d'être à l'extérieur.
Un engouement très net pour le golf qui se traduit en chiffres. Aurélien Auchard est le directeur du golf de Bordeaux-Lac.
Nous, en 3 mois, on a déjà 80 nouveaux joueurs. Pour la proportion, on espérait à fin mars en faire à peu près 20. Donc on est 4 fois au-dessus de nos attentes. Du jeune, du moins jeune, des personnes en couple. Des personnes qui nous disent aussi « je suis en chômage partiel, c'est l'occasion de le faire maintenant ». La règle est simple, on demande aux joueurs de porter le masque au maximum sur le parking. Masque obligatoire dans la zone du clubhouse. Et au moment où ils arrivent sur le départ, ils peuvent enlever le masque. C'est une pratique sportive, donc c'est sans masque.
Et pour la sécurité sanitaire, pas question de retirer, donc de toucher les drapeaux sur les greens, pas de râteaux non plus dans les bunkers. En revanche, sont disposés sur le parcours des distributeurs de gel hydroalcoolique. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Alors, un tout petit point vocabulaire pour les novices dont je fais partie. Les bunkers, ce sont les fosses de sable. Sur les terrains de golf.
Il faut ratisser normalement,
voilà, avec
parce
les fameux
traces de pas.
Râteau, donc.
Qu'on n'aura pas. Non. Non, c'est vrai que la distanciation sociale, on peut l'imaginer beaucoup plus facilement sur 18 trous que dans le gymnase municipal d'à côté. Ça, je peux le concevoir.
Exactement. Et après un point golf, on va faire un point foot. Après les victoires du Real Madrid et de Manchester City en quart de finale aller de la Ligue des Champions, ce soir, c'est le Paris Saint-Germain qui se déplace sur la pelouse du Bayern Munich. Soirée spéciale, oui, à suivre à partir de 20h30. Ce sera évidemment sur Europe 1.
Et le milieu de terrain, Ander Herrera, nous répondra dans quelques minutes sur Europe 1 pour le tête-à-tête. Merci Sophie Echen, c'était le journal de 7h30.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Je vous l'ai dit, le tête-à-tête Europe matin dans une minute. On va parler du PSG, on va aussi sourire du football. Ce soir, un quart de finale de Ligue des Champions, c'est pas rien. Mais notez ce rendez-vous. C'est à 8h15. On a parlé de la fin de vie dans ce journal. Le débat relancé à l'Assemblée contre l'avis du gouvernement. Ça sera discuté demain par les députés. Il y a 6 ans, Michel Philippin a accompagné sa femme Mireille en Suisse. Elle a pu choisir sa mort grâce à une association sur place. Témoignage. Michel Philippin va répondre aux questions de Sonia Mabrouk tout à l'heure. Très bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9.
Europe 1, il est 7h42. Ils nous doivent une revanche, lit-on à la une du Parisien aujourd'hui en France ce matin. À fond les ballons pour l'équipe qui se réjouit de cette affiche Bayern de Munich-PSG, quart de finale aller de Ligue des Champions. Soirée spéciale sur Europe 1 dès 20h. Les Parisiens, 8 mois après la finale perdue contre ce même Bayern, mon invité ce matin joue au PSG et saluons l'effort qu'il fait de répondre en français, le milieu de terrain, Ander Herrera.
Le tête-à-tête, Mathieu Béliard.
Bonjour Ander Herrera.
Bonjour.
Et merci de bien vouloir répondre aux questions d'Europe 1. C'est un grand jour, un jour important pour le PSG. Je vais commencer par la dernière question. Un pronostic pour ce soir ?
J'aime pas de faire les pronostics parce que normalement,
J'ai fait l'erreur toujours, donc je peux faire d'être prêt pour un jour important, comme tu as dit déjà, mais pas de pronostic.
Alors la semaine a commencé difficilement, une défaite au Parc des Princes face à Lille qui reprend la tête du championnat le week-end dernier. Vous comprenez que le PSG a inquiété?
Ouais, c'est sûr, c'est vrai qu'on a perdu contre Lille, un match très important pour nous. Mais je pense que c'est pas le moment de parler de la Ligue maintenant. J'ai toujours dit que le football, la meilleure chose, c'est quand tu perds un match et tu as l'opportunité de jouer un match proche. Et ça, c'est la mentalité que ce groupe a dans ce moment.
Oui.
La mentalité de PSG maintenant, c'est Bayern Munich, Bayern Munich et Bayern Munich.
Oui, mais si je vous pose la question, c'est que finalement, cette semaine, c'est toute la saison du PSG qui se joue.
On a encore des matchs pour jouer dans la Ligue. Donc, ce n'est pas définitif la défaite qu'on a pris contre Lille. Mais c'est vrai que la Champions League, il n'y a pas de temps. C'est une compétition que si tu perds un match, tu as un gros problème. Donc, ouais, on va essayer de préparer les matchs ce soir. Donc, c'est deux compétitions complètement différentes.
Alors, il y a eu cette finale perdue contre le Bayern au mois d'août. Ce soir, c'est une revanche?
Honnêtement, quand j'ai joué un match contre une équipe que j'ai déjà perdue, et je ne pense pas de revanche. Si tu as la revanche dans la tête, ce n'est pas la meilleure manière de préparer un match.
Mais alors le match de ce soir, beaucoup vont briller par leur absence. Pas de Marco Verratti, Paredes, Icardi, Florenzi, absent. En face, il manque l'attaquant star du Bayern, Robert Lewandowski. Ça change tout?
Oui, mais je ne pense pas de l'adversaire. Je pense de mon équipe. Je pense qu'on ne doit pas penser beaucoup de s'ils sont de Lewandowski ou non, s'ils sont un joueur important ou non, si on manque Marco. On va jouer avec les joueurs qui sont prêts pour jouer. On a des qualités. On a Danilo qui l'a joué très très bien contre Lyon. On a Rafa qui peut jouer là. On a moi que je peux jouer GPD. On a Marquinhos même qui peut aider au milieu du terrain et il a déjà fait.
Oui.
Il n'y a pas de temps pour pleurer. C'est une opportunité pour être optimiste, pour être concentré, pour essayer de gagner.
Et eux, ils sont là. Kylian Mbappé et Neymar. On compte sur eux. Hein. Il va falloir qu'ils prennent leurs responsabilités ce soir.
Oui, bien sûr, ils ont des responsabilités parce qu'ils sont deux joueurs meilleurs du monde. Mais on a aussi joueurs avec beaucoup d'expérience. On a Keylor qui a gagné 3 Champions League. On a Di Maria qui a joué et il a l'habitude de jouer ce type de match. On a déjà joué en finale de Champions League. Bien sûr, ils sont importants pour nous, mais on ne peut pas donner toute la responsabilité pour des joueurs, seulement pour des joueurs.
Oui, mais alors cela dit, pour ces deux joueurs, ces deux immenses stars, enfin on parle un peu plus du terrain, un petit peu moins de contrats et de prolongations.
J'espère, mais ce n'est pas le moment où je ne suis pas la personne pour parler de la prolongation de Ney. Mais bien sûr, tous les joueurs au vestiaire, tous les joueurs dans cette équipe, on veut que Ney joue pour nous encore beaucoup de saisons. Ils sont des joueurs, quand ils sont sur le terrain, ils ne pensent pas de la prolongation ou des contrats ou de quelque chose. Ils sont des gagneurs, ils sont des joueurs qui vont de faire une histoire dans cette club.
Oui.
Ils aiment de jouer la Champions League, ils aiment de jouer contre les meilleurs adversaires possibles et on a beaucoup de confiance parce qu'ils sont fit, ils sont prêts pour jouer, pour gagner.
Oui, ils sont en forme. Vous l'avez cité, hein, Keylor Navas en forme aussi, le gardien du Paris Saint-Germain, très important ces derniers matchs. En ce moment, franchement, il vous impressionne?
Non, c'est incroyable. C'est un gardien qui peut te donner des points à la fin de la saison. Normalement, les gardiens, ils sont là pour aider, mais ils ne donnent pas beaucoup de points pour les équipes. Et Keylor Navas, c'est un gardien qui fait la différence.
Oui, clairement.
Il a la confiance, il a l'expérience. Et si tu vois tous les jours la manière qu'il s'entraîne, tu comprends pourquoi il performe comme ça.
Il travaille dur?
Très, très dur. Et toujours avec la sourire, toujours avec le meilleur état d'esprit. Avec, comme j'ai déjà dit, il essaye de donner des conseils pour tout le monde. Positif, c'est un professionnel fantastique.
Et Mauricio Pochettino, ça fait 3 mois qu'il entraîne le Paris Saint-Germain. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il apporte de plus par rapport à Thomas Tuchel?
Les deux coachs, ils sont offensifs, mais c'est différent. Et Mauricio, c'est un coach qui veut attaquer tout le temps, tout le temps. Et peut-être Tuchel, c'est un coach plus de possession parfois.
Oui.
Mais les deux, j'ai amélioré, j'ai appris beaucoup. Je considère que j'ai beaucoup de chance d'avoir travaillé avec les deux.
Ce soir, Bayern de Munich, Paris Saint-Germain, quart de finale de Ligue des Champions, soirée spéciale sur Europe 1 à partir de 20h pour terminer. Ander Herrera, vivement le retour du public dans les stades. Hein.
Je manque beaucoup. Pour moi, quand j'étais petit, j'ai tombé amoureux de football. C'était avec public, pour le bruit de l'estade, pour l'ambiance, pour tout le monde qui va à l'estade avec la
en famille,
avec la rêve, le rêve de voir ton équipe, de chanter. Mais ouf, c'est difficile pour nous. On parle beaucoup de ça et chaque échauffement quand on rentre sur le terrain, on manque beaucoup les spectateurs. Et au Parc des Princes, qu'on a une ambiance fantastique. Et on manque encore plus.
Et comme ça, on sait ce que vous vous dites quand vous entrez sur le terrain pour l'échauffement. Ander Herrera, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Et allez Paris.
Merci, allez Paris. Ciao, ciao.
7h49 sur Europe 1. Dans un tout petit instant, l'édito politique de Nicolas Bétou et Nicolas Canteloup avant 8h sur Europe 1. Très bon réveil.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h51 sur Europe 1.
La Caisse d'épargne vous présente l'édito politique de Nicolas Bétou. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Bonjour Nicolas Bétou.
Bonjour Mathieu.
Alors vous nous parlez ce matin d'un sujet qui semblait jusqu'à récemment anecdotique, mais qui est en train de devenir un problème politique pour la mairie de Paris.
Oui, un mouvement qui a été lancé sur Twitter avec le hashtag Saccage Paris qui, comme son nom l'indique, rassemble les preuves. Avec sûrement pour certains d'entre eux. Bon, elle a d'abord regardé tout ça avec dédain, dénonçant une basse manœuvre de l'opposition. Et puis elle a fini par comprendre qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse. Anne Hidalgo a donc envoyé au feu son bras droit, Emmanuel Grégoire, le rescapé du couac sur le confinement dur de 3 semaines pour Paris, lequel a astucieusement rétréci le débat pour ne parler que de la propreté ou, pour être exact, de la saleté des rues.
Oui, mais qui est effectivement un sujet qui est très souvent pointé.
Oui, enfin... saleté, insalubrité. Et pour sa défense, la mairie invoque le manque de moyens. Il faudrait, augmenter les impôts et les amendes, mais aussi l'incivilité de certains habitants et le Covid qui a immobilisé 10% des effectifs de nettoyage dans une ville où, de toute manière, les fonctionnaires travaillent moins de 35 heures par semaine. Pas très convaincant, donc. Mais surtout, Saccage Paris soulève plusieurs autres sujets.
Lesquels ?
Eh bien, le manque d'entretien des équipements publics, qui se dégradent et sont à peine rafistolés, et la laideur des aménagements et des mobiliers urbains. Il est vrai que transformer un parvis d'église en verger façon ZAD, avec un amoncellement de palettes et de cajots, n'est pas très qualitatif.
Mais on sent que c'est pas votre truc.
De même que les uri-trottoirs et les sortes de pompes à urine qui ont été installées ici et là pour faire du compost sont d'une esthétique incertaine. Et puis, dans une ville pluricentenaire que des grands anciens ont embellie et aménagée avec soin, voir des plots jaunes ou des blocs de béton taillader les rues pour en faire des pistes à vélo plus ou moins définitives, c'est un peu étrange. Même l'avenue de l'Opéra, la seule à Paris à n'avoir aucun arbre, sur demande express de l'architecte du Palais Garnier, eh bien sa perspective est aujourd'hui défigurée.
Vous m'apprenez quelque chose là. L'avenue de l'Opéra n'a aucun arbre, sur demande de l'architecte Garnier, d'accord.
Contrat.
Bon, alors, est-ce que ce n'est pas une polémique très parisienne, tout ça ? En plus, on parle des avenues et des arrondissements.
Peut-être, mais on ne serait pas à un an de la présidentielle. Oui, vous auriez raison. Et voilà, Anne Hidalgo ne fait pas mystère de ses intentions. Et voir grossir le passif d'une gestion qui met en cause sa capacité à administrer la capitale et à y lutter contre les incivilités, l'insécurité, à respecter ce qui fait le patrimoine et une partie de la mémoire des Français, oui, c'est forcément pour elle un problème qui dépasse le seul territoire situé à l'intérieur du périphérique parisien.
Merci Nicolas Bétou, votre édito tous les matins à 7h50. Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion.
C'était l'édito politique avec la Caisse d'épargne mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Et tous les matins, Nicolas Canteloup conseille à sa manière l'invité de la matinale à 8h15. Sonia Mabrouk reçoit Michel Philippin qui a accompagné sa femme Mireille dans son euthanasie. Et c'est dans un suicide assisté, en l'occurrence, c'était en Suisse. Et c'est l'écrivain Michel Houellebecq qui a écrit un long papier dans le Figaro sur le sujet, qui est venu nous dire un mot. Bonjour Michel Houellebecq.
Oui. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Béliard. Monsieur Bétou.
Bonjour.
Qui a, je suppose, lu mon papier, vu qu'il était dans le Figaro.
Oui, oui,
pas dans l'Huma.
Attention, il lit tout.
Je trouve très bien que vous parliez de l'euthanasie ce matin. Mm-hmm. C'est vrai que ça. Je pense que c'est important de changer les idées, de sortir la tête du Covid, de la maladie pour parler de la mort. Ça change, c'est une bouffée d'air frais.
Alors je vous cite toujours, vous écrivez « Je vais finir de perdre mes cheveux et mes dents, mes poumons vont commencer à partir en lambeaux, je vais devenir impotent, plus ou moins impuissant, peut-être incontinent, peut-être aveugle. »
Oui, c'est...
Bouffée d'air frais, oui.
C'est des petites joies, des prérogatives qu'on s'acquiert avec le grand âge. Ça fait envie, je suis impatient de vivre ces moments. Et puis, vous savez, quand on est alité, on a souvent le bonheur d'être rempli d'escarres. Et,
c'est horrible.
Comme on dit dans les EHPAD, l'escarre fait vivre. Non, je ne ris pas parce que j'ai plus de dents. Donc,
ah, le petit déj.
Hey, Mathieu, j'ai un rapport complexe à la médecine. J'avais voulu signer une sorte de, comment on dit, de testament, de papier pour donner mon corps à la science. Et la science m'a dit, on apprécie, mais non merci.
Non merci.
C'est vexant.
Nicolas Canteloup, bravo, parce que franchement sur ce sujet c'est quand même pas évident. Nicolas Canteloup qu'on retrouve à 8h45 sur Europe 1 pour la revue de presse, bien sûr, 7h57. 7h59 sur Europe 1, Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Alors, résumé des épisodes précédents. Je vous disais, il y a presque 3 semaines, ne rangez pas vos doudounes. Donc, vous ne les avez pas rangés parce que vous êtes des gens sympathiques qui me font confiance. Et puis, là, le froid est arrivé, donc. Il va faire relativement doux vendredi, samedi, dimanche. Je vous dis de nouveau, ne rangez pas vos doudounes, car le froid reviendra à partir de lundi ou de mardi prochain. Vous voyez à peu près où je veux en venir. Et là, vous êtes derrière votre radio et vous dites, quand le soleil va-t-il revenir? Quand va-t-il faire beau? Eh bien, peut-être à partir du 16 ou du 17 avril. Voilà, je me suis engagé, j'ai ma tête sous le bio. En ce qui concerne les températures d'aujourd'hui, elles se situent entre moins 5 et plus 4 degrés. Pour les températures maximales, entre 9 et 14 degrés. Donc, vous voyez que dans l'ensemble, ce sont les températures identiques à celles d'hier. Le temps aujourd'hui sera globalement ensoleillé, car ça, c'est la bonne nouvelle. Il fait froid, mais il fait beau, à quelques nuances près, notamment près de la Manche dans l'après-midi, 2-3 averses. Et puis, le mauvais temps qu'il y avait ce matin, les petites chutes de neige sur les Alpes, dans les vallées alpines, ces petites chutes de neige vont cesser et nous aurons là aussi des éclaircies.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.